quand on a la chance de faire un travail qu'on aime, ça n'a pas de prix, déjà, et puis vous le faites bien. Quand vous lancez dans des projets tout neufs, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et vous avez toujours des aléas. Nous, on est très fiers de nos salariés, on est très fiers de ceux qui travaillent avec nous. Je pense qu'on atteint l'excellence quand on a un retour client qui nous dit merci, j'ai passé un séjour extraordinaire.
Chers insiders, j'ai envie de vous parler d'une conférence qui arrive bientôt. Du 7 au 9 octobre 2021 aura lieu Excellence by Vendôme, un salon international pour le recrutement des métiers du luxe. De prestigieux intervenants sont programmés et les échanges promettent d'être très enrichissants. L'événement est 100% en ligne. Pour vous y inscrire, rendez-vous dans les notes de l'épisode ou sur la page LinkedIn de Vendôme. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Du Paris Saint-Germain à l'hôtellerie de luxe. De grands groupes internationaux à une collection d'hôtels de famille. Sans elles, les talents ne pourraient s'exprimer au sein de leur maison. Sans elles, l'humain n'aurait pas cette place centrale. Vous l'aurez deviné, notre invitée du jour est directrice des ressources humaines. Bonjour, Vanessa Sinancevic.
Bonjour Maxime.
Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur Hospitality Insiders. Je faisais allusion à l'instant à des hôtels de famille. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter cette histoire de Maison Pariente, puisque c'est leur nom, en tout cas ça se prononce comme ça ?
Maison Pariente, ouais, on dit ça comme ça. Certains mettent un petit accent, mais en disant Maison Pariente, ça fonctionne très bien. Tout d'abord, merci pour cette introduction plus que flatteuse. Mais en fait, c'est sans toute une équipe que tout fonctionne. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et concernant Maison Pariente, oui, c'est une société qui est encore assez jeune, puisqu'on opère là en ce moment pour notre troisième saison estivale. Voilà, on a une collection de trois hôtels ouverts actuellement. Un à Saint-Tropez, un à Crillon-le-Barrave, et un autre à Méribel, donc pour la saison d'hiver. Et puis, nous sommes en train de construire notre futur hôtel parisien.
Waouh!
Ouais, ça fait une très très belle aventure. Cet hôtel qui ouvrira le second semestre 2022 et qui se situe dans le Marais, je peux d'ores et déjà dire qu'il se situe, puisqu'il est en construction depuis plusieurs mois. Et que on voit les choses avancer petit à petit, et c'est vrai que c'est très très excitant.
Ah superbe, toujours voilà. une belle aventure qu'une pré-ouverture d'hôtel.
Une très belle aventure, que des hôtels de 5 étoiles, des hôtels de luxe, des hôtels pensés comme des maisons dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent à l'aise. On est toujours dans un état d'esprit chic mais décontracté. Où l'attention et le service client sont quand même la priorité au quotidien.
Oui, et j'ai l'impression que ce sont des petites structures en termes de chambres à chaque fois.
Oui, à chaque fois de petites structures. Par exemple, sur Le Coucou à Méribel, on a 55 chambres.
D'accord, oui.
Voilà, on ajoute deux beaux chalets de 500 mètres carrés chacun. On a quand même deux beaux produits. L'Oupiné, on a 34 chambres.
D'accord. L'Oupiné, c'est Saint-Tropez, du coup.
L'Oupiné, ouais, c'est Saint-Tropez, 34 chambres. On a un partenariat avec Beef Bar pour la restauration, donc un concept qui est assez jeune, assez branché, assez novateur. Et puis on a aussi Crillon-le-Brave, à Crillon-le-Brave. Donc l'hôtel porte le nom du village. C'est ce qu'on appelle un village hôtel.
D'accord.
Donc, ce sont les anciennes maisons des notables qui constituent cet hôtel. Et là, nous avons également 34 chambres. Voilà, donc on a vraiment de très très beaux produits. Et même s'ils ont un dénominateur commun qui sont les valeurs de Maison Pariente, ils sont tous différents.
D'accord.
C'est-à-dire que chaque fois que vous allez dans un de nos hôtels, dans une de nos maisons, vous allez vivre une expérience différente. Parce que Saint-Tropez n'est pas Crillon-le-Brave, puisque Méribel n'est ni Saint-Tropez ni Crillon-le-Brave. Et donc à chaque fois, on a quand même une attache, on est assez ancré sur les valeurs de la région, donc on est toujours locaux, et en même temps, on garde aussi la petite patte Maison Pariente, la petite touche Maison Pariente.
Oui.
c'est qu'on est chez nous, quoi.
Et comment est-ce que le groupe s'est créé, puisque tu dis ça fait seulement 3 ans que ça existe, c'est une famille française, quelles sont les origines?
Alors, c'est une famille française, en fait, Patrick Pariente, le fondateur de Maison Pariente, et l'ancien fondateur de Naf-Naf et Chevignon.
D'accord.
Voilà. En fait, il a vendu ses marques en 2007 au groupe Liberté. Mmh. Et puis, au gré de rencontres, il s'est lancé dans l'aventure hôtelière avec Xavier Niel en construisant l'Apogée, donc, qui est un palace à Courchevel.
Oui.
Cet hôtel-là a été confié au groupe Upcur, puisqu'à l'époque, Patrick Pariente n'avait pas de structure en fait pour gérer et pour opérer ses hôtels. Et il s'est dit, c'est quand même une aventure extraordinaire, l'hôtellerie, c'est quand même passionnant. Et il a décidé de fonder le groupe Maison Pariente avec ses deux filles, donc Leslie Kwana, qui est présidente, et Kimberly Cohen, qui est la directrice artistique.
D'accord.
Donc les deux ayant les compétences complètement adaptées finalement au lancement de ce type de projet.
Oui.
Et voilà comment est née Maison Pariente.
C'est en effet une vraie histoire familiale alors.
Ah, c'est une vraie histoire familiale, c'est une belle histoire familiale. Moi, je travaille avec eux depuis un tout petit peu plus d'un an et je dois avouer que je suis ravie parce que, voilà, ils ont une capacité à voir les choses, une capacité aussi à écouter, à revoir les choses s'il faut les adapter. Enfin, voilà, c'est... Travailler avec des propriétaires comme ça, je dois avouer que c'est très très plaisant.
Bon, ça va donner envie un petit peu de monde de venir alors rejoindre le groupe après l'interview, j'espère.
Ah non, mais ils vont tous se bousculer et c'est nous, ça. On va devoir choisir.
Et alors justement, quel est ton rôle au sein de ce groupe? Je te présentais en tant que DRH, mais un peu, si tu peux nous raconter aussi qui tu es et quel est ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à Maison Pariente? C'est intéressant de comprendre le cheminement jusque-là.
Oui, alors... Moi, je suis arrivée complètement par hasard, en fait, chez Maison Pariente. J'ai vu une annonce, en fait, sur laquelle les compétences personnelles, les soft skills, comme on les appelle dans notre jargon, étaient plus mises en avant que les aptitudes ou les compétences, on va dire, techniques qui pouvaient être recherchées pour le poste. Donc, l'annonce était du type, si je me souviens, à peu près dans les grandes lignes, nous recherchons un DRH group, vous êtes dynamique, investi, passionné. Enfin voilà, c'était vraiment des mots forts. Rejoignez-nous, mais on parlait pas vraiment du contenu du poste. Mmh. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est assez atypique comme type d'annonce. J'ai vu que c'était dans le secteur de l'hôtellerie, un secteur qui m'intéressait depuis bien bien longtemps.
D'accord.
Et je dois avouer que j'avais déjà postulé à certains postes à l'époque dans le secteur de l'hôtellerie et que n'ayant aucune expérience dans le secteur, je pense que ma candidature était systématiquement évacuée. Mmh. Et là, en fait, le cabinet de recrutement me contacte le lendemain, en fait, après que j'ai postulé, et on discute du poste, voilà, des attentes, des enjeux, du fait que c'était un jeune groupe en plein développement, avec des ambitions encore pour grandir un peu plus, qu'il y avait des choses à mettre en place, à structurer, parce qu'évidemment, quand vous êtes un jeune groupe, il y a encore plein de choses à faire, le champ des possibles est immense.
Oui.
Et puis, j'ai suivi tout le process de recrutement et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai suivi tout le process de recrutement pendant le confinement.
D'accord.
Donc, tout était en visio, tout était à distance.
Oui.
Et le dernier entretien, je suis allée voir directement Leslie, Kimberly, Patrick et Guiberto, qui est le DG groupe.
Ouais, lui c'est lui qui dirige le groupe, donc les 3 hôtels et futurement, enfin ouais. Dans le futur le 4e.
Exactement. Et qui vient du Shangri-La.
D'accord.
Et puis bah voilà, et puis ça s'est fait et on s'est dit bah deal, en fait on veut travailler ensemble. Je pense que tout ce processus de recrutement a été oui, effectivement l'occasion de valider des compétences techniques. Voilà, parce que c'est je viens quand même postuler pour un certain poste, je te dirai un peu plus tard exactement quoi ça consiste. Mm-hmm. Mais aussi c'était très important d'avoir un vrai feeling. On sent que ça fit parce qu'on part quand même pour une aventure de plusieurs années,
oui.
Une aventure passionnante avec tous les bons côtés et toutes les difficultés que ça comporte. Parce qu'évidemment, quand vous lancez dans des projets tout neufs, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et vous avez toujours des aléas.
Absolument.
Et effectivement, il faut aussi être en capacité de de danser sous l'orage, comme on dit, de manière collective. Et c'est ce qu'on a fait et ça fonctionne bien, puisque avec le Covid, on a vu que c'était très compliqué. Et on a tous travaillé main dans la main, on a tous essayé de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Moi, j'en suis ravie. Et mon rôle chez Maison Pariante, donc on est sur la partie vraiment développement stratégique des ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de recrutement? Quels sont les profils qu'on va cibler? Est-ce qu'on va sur des codes classiques de l'hôtellerie où on se dit maintenant on veut que des profils qui viennent de tel endroit, tel endroit, tel endroit? Ou est-ce qu'on élargit le recrutement? Ça va être la formation, comment on forme nos collaborateurs, qu'est-ce qui est clé chez nous dans l'intégration. On a aussi les politiques de rémunération, est-ce qu'elles sont adaptées, est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer, les politiques de rétention.
J'ai beaucoup trop de questions qui m'arrivent en même temps parce que tu abordes énormément de sujets qui me tiennent à cœur, mais notamment tu parles un petit peu de ce que moi j'appelle l'expérience collaborateur. Comment est-ce que chez vous vous la définissez chez Maison Pariante à partir de, on va dire, du pré-recrutement, du moment où tu crées un profil type que tu veux recruter? Tu me parlais tout à l'heure de soft skills, du coup j'imagine que si c'est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant, comment ensuite vous faites pour garder vos profils puisqu'on est sur seulement 3 hôtels, bientôt 4, j'imagine qu'en 3 ans il y a déjà des gens qui ont envie de bouger. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à leurs attentes en termes de politique salariale? On est dans un métier très compliqué qui est, on va pas se le cacher, assez mal payé. Comment est-ce que vous positionnez, parce que des ouvertures d'hôtels, des saisons comme ça, comme on peut avoir à Méribel, à Saint-Tropez, c'est extrêmement engageant physiquement et émotionnellement. Je te pose tout plein de questions comme ça et tu y réponds dans l'ordre que tu veux.
On va essayer de suivre le fil, on va dire, logique dans les réponses, c'est-à-dire qu'effectivement c'est le pré-recrutement, c'est déjà l'annonce en elle-même. Recruter un chef de rang, en soi, il fait son métier, il est le même. Je veux dire qu'il le fasse à tel endroit ou à tel autre. Finalement, d'un point de vue technique, c'est la même chose. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment au-delà de ses aptitudes techniques, ça va être aussi toujours ces soft skills, c'est-à-dire cette capacité à... Déjà, la passion du métier, c'est-à-dire que nous, dans le processus de recrutement, on demande pourquoi ils ont choisi l'hôtellerie-restauration.
Oui.
Ça, c'est hyper important. Est-ce que c'est quelque chose qui est choisi par défaut, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment, qu'ils ont envie de poursuivre, est-ce qu'ils ont des aspirations à évoluer? Voilà, pour nous, ça, c'est extrêmement important. Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment ce métier? C'est-à-dire qu'ils aiment ce métier parce que pour eux, la plus belle des satisfactions, c'est de voir le client content, ou de voir qu'effectivement ils interagissent avec eux et qu'il y a du sourire en face, et cette réciprocité finalement fait que ils sont épanouis dans leur travail. Et nous, c'est ça qu'on regarde lors de recrutement.
Quel est leur moteur?
Ben oui, parce que finalement, vous passez 80% de votre vie au travail, quoi. Oui. Finalement, et il n'y a rien de pire que de venir travailler pour faire quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, quand on a la chance de faire un travail qu'on aime, ça n'a pas de prix, déjà. Et puis, vous le faites bien.
Bien sûr.
Donc nous, sur cette partie de pré-recrutement, de recrutement, c'est ça qu'on met en avant. Ensuite, on a aussi, dans les arguments, entre guillemets, je dirais, on a le fait qu'on a de belles réussites aussi chez nous. On a des profils qui ont évolué. On a un barman qui est devenu chef barman en 3 saisons. C'est plutôt une belle évolution. Au sein d'une même saison, si on voit qu'on a de bons profils, qu'ils ont envie, qu'ils en ont sous le pied, et ils ont la niaque et qu'ils ont aussi des aptitudes qu'on recherche, on n'a aucune difficulté à faire évoluer quelqu'un en 2 mois. C'est-à-dire que, oui, t'as la capacité. On va pas se dire, ah, ouais, mais non, ça fait que 2 mois qu'il est sur tel poste, c'est beaucoup trop rapide pour le faire évoluer. On le fait, en fait. Parce que, il est méritant, qu'on sait qu'il en a les capacités, et ensuite, on l'accompagne.
Oui.
Évidemment, on n'est pas tout seul au milieu de la piscine. Il faut qu'il apprenne à nager, on est là, on l'accompagne, et puis finalement, ça se fait, parce que ils ont un petit peu ça dans le sang.
Oui, et puis donc il y a une souplesse dans votre structure, une sorte d'agilité dans le modèle qu'on retrouve peut-être moins dans les gros groupes, parce que si vous finalement vous êtes aussi tout nouveau sur le marché. Donc, vous êtes en constante remodélation, si on peut le dire un peu comme ça.
Bah, c'est exactement ça. Et puis, on a aussi, je pense, dans notre mode de fonctionnement, mais chez tout le monde, en fait, que ce soit au niveau du siège ou au niveau des hôtels, cette capacité aussi à se remettre en question très rapidement. Et on n'a aucune difficulté à dire « Ah ben non, en fait, ce qu'on a mis là en place, ça ne marche pas très bien, il faut qu'on le revoie et qu'on l'ajuste. »
Oui.
Et ça, c'est systématique. Et effectivement, comme tu le dis, on est dans une structure qui nous permet cette agilité, cette rapidité, en fait, de mise en œuvre, parce que, ben voilà, on n'a pas des niveaux de validation qui sont énormes. C'est-à-dire que ben, les niveaux de validation, ça va être Guy Berthold, DG du groupe, et nos propriétaires.
Oui.
Donc ça, c'est génial. C'est génial.
Propriétaires qui, à travers ce que tu dis, je comprends qu'ils sont très présents aussi dans les décisions du groupe, ce qui n'est pas toujours le cas. On a parfois un DG qui prend toute décision, un propriétaire qui valide d'un point de vue financier, mais qui ne s'implique pas forcément dans le développement. Là, j'ai vraiment l'impression que, bah, qu'on retrouve ce côté un peu réunion familiale, je l'imagine comme ça.
Ouais, 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 c'est vrai qu'ils sont très présents, ils sont très à l'écoute. Et évidemment, il y a une autonomie qui est laissée à Guy Berthold, c'est évident, parce que sinon, ils ne pourraient pas être sur tous les fronts. Et c'est vrai qu'ils sont là, ils sont présents, ils vont sur les hôtels, ils parlent à tout le monde quand ils viennent sur les hôtels, ils s'intéressent aux gens, et ça aussi, je pense que nos collaborateurs, ils le voient, ils le sentent, et de se dire que les propriétaires ont de l'empathie et comprennent aussi le quotidien, ça c'est important.
Et donc selon toi, qu'est-ce qui fait qu'ils restent après 3 ans chez Maison Parisienne par rapport à une concurrence toujours plus présente? Est-ce que c'est tout ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être importants?
Si, je pense qu'il y a quand même le management, c'est-à-dire que vous avez le management de proximité qui lui aussi a un rôle clé dans l'organisation. Là, le directeur de l'hôtel, lui, il va piloter la structure dans son ensemble, sur les aspects opérationnels, sur les aspects financiers, sur les aspects humains. Mais finalement, le premier relais que l'on a, ça reste quand même les managers de proximité.
Oui.
Et ce sont ces managers-là qui aussi donnent envie aux équipes d'avancer. Ce sont ces managers-là qui aussi font du feedback en disant « Là, c'est bon, c'est exactement ce qu'on attend de toi. » Ou alors, inversement, dire « Bon, là, attention, faudrait peut-être corriger ce point-là. » Et ça leur permet finalement d'être en amélioration continue. Et puis, c'est toujours fait aussi, je pense, avec ce terme qui est un peu galvaudé, mais avec bienveillance. C'est-à-dire que nous, dans le choix de nos managers, on ne travaille pas avec des managers rigides. Ils sont fermes, ils sont exigeants,
oui.
Mais ils ne sont pas. Enfin voilà, ils ont cette capacité à faire un retour toujours constructif et toujours pour aller vers le mieux.
Oui. Voilà. Moi, j'aime bien nuancer aussi. On peut être rigoureux sans être rigide.
Ouais,
c'est deux choses qui sont bien différentes, et tu touches une corde très sensible chez moi quand tu parles des managers de proximité, qu'on comprenne bien ce que tu appelles, enfin ce que moi j'appelle un peu le middle management, c'est tous les chefs de service aussi, chefs de réception, ouais. Et leurs assistants, en fait tous ceux qui vont faire le lien entre le directeur de l'hôtel et finalement tout le personnel qui est en contact direct avec les clients, c'est ça?
C'est exactement ça.
Et alors comment tu transmets cette vision, on va remonter tout en haut, nos propriétaires, c'est transmis par le directeur général qui est Guy Berthold, et ensuite, pour que ça coule correctement jusqu'au directeur hôtel et dans ce fameux manager de proximité, comment est-ce que tu t'assures qu'il y ait une bonne transmission de la vision, ouais, qu'il y ait une cohérence finalement dans, au final ça va être dans l'expérience, mais dans le message qui est transmis?
En fait, ça passe par l'information et la formation.
Mmh.
Les deux éléments. Et puis aussi, ça passe... alors malheureusement, on n'a pas pu le faire cette année, mais chaque année, on fait un petit séminaire de lancement de saison où
oui.
Moi, je suis là, Guy Berthold est là, Leslie Kwana est là, si Kimberley aussi peut être là, elle est là. Et on leur dit voilà, c'est reparti pour une saison. Leslie prend souvent la parole en tant que présidente pour réexpliquer le parcours de Maison Parisienne, les maisons, nos valeurs. Et ça aussi, je pense que ça touche beaucoup, parce que quand vous avez les présidentes qui prennent le temps de venir directement dans l'hôtel pour annoncer le lancement de la saison, accompagner toute cette phase de pré-ouverture. je pense que ça marque, ça touche. Et à partir du moment où vous avez pas juste un discours qui est distillé comme ça, c'est-à-dire de manière brute, de manière lue, mais qui est vécu, parce que finalement c'est son histoire, c'est l'histoire de la famille. Eh bien ça, tout de suite, je pense que ça touche, ça marque, et ça a beaucoup plus d'effet finalement qu'un simple PowerPoint où on dit ah tiens voilà c'est ça, les valeurs de maison parisienne c'est ça. Voilà, donc c'est aussi raconter une histoire, une espèce de storytelling aussi.
Bien sûr, complètement.
Que, voilà, ça a beaucoup plus d'impact.
Oui, oui. Et tout à l'heure, tu parlais de rémunération. Est-ce que, c'est évidemment un point crucial, comment est-ce qu'on se différencie alors quand on a un tout petit groupe par rapport à des géants du secteur?
Ouais, c'est une très bonne question. J'avoue que c'est pas évident.
Mm.
Alors nous, on s'appuie quand même sur certains benchmarks.
Oui.
Ça aide. Après, on sait qu'on est dans les niveaux du marché en termes de rémunération, en tout cas sur les salaires de base. On n'est pas. Alors on va pas dire on va vous payer deux fois plus que chez nos confrères, non. Ça, ce serait mentir. En revanche, on a mis en place cette année, par exemple, un système d'incentive qui permet aussi de challenger les équipes, leur dire écoutez, plus vous êtes performant, plus vous pouvez gagner, un peu le principe.
Oui.
Et aussi je vois, on l'a fait sur les deux dernières saisons, puisqu'on a eu des saisons difficiles avec le Covid, les activités qui reprennent sur des périodes très très courtes, c'est-à-dire qu'on a des saisons qui sont très denses, qui sont vraiment assez intenses. Et on n'hésite pas à verser des primes exceptionnelles pour les remercier, en disant vous avez fait un travail exceptionnel, et on vous verse une prime exceptionnelle pour vous remercier de votre investissement. Donc on a aussi cette capacité à activer des leviers très rapidement pour finalement reconnaître aussi les salariés et leur travail. Donc ça, c'est sur la partie rémunération, mais il y a aussi au quotidien, je pense. Le fait de dire bravo, ça a été une journée hyper difficile, mais vous avez assuré.
La reconnaissance du travail
la
effectué.
La reconnaissance, elle n'est pas que financière. Hein. Verser une prime, ça ne va pas vous enlever la fatigue. Hein. Verser une prime, ça ne va pas vous motiver du jour au lendemain. Mais quand on vous dit super, good job, franchement, vous avez assuré, c'est pris de manière directe. On sent que la reconnaissance, elle est authentique, quoi. Elle est spontanée, elle est authentique.
Ouais, j'imagine que ça doit être... j'imagine, pour l'avoir aussi vécu, c'est clairement ça qui fait la différence, c'est quand on a ce sentiment d'appartenance à un groupe et qu'on se soutient les uns les autres, surtout dans des périodes aussi intenses que peuvent l'être une saison, où pendant 3-4 mois, on arrête de respirer, on est épuisé, on se jette à corps et âme à l'intérieur de cette même saison. C'est sûr que la paye c'est bien, mais elle fait pas tenir tous les jours.
Non, elle fait pas tenir tous les jours, mais après c'est vrai qu'on... Ouais, on a quand même de très belles équipes. Nous, on est très fiers de nos salariés, on est très fiers de ceux qui travaillent avec nous.
Et comment est-ce que tu parlais de performance tout à l'heure? Comment est-ce que tu mesures cette même performance? Vous leur mettez des objectifs? Est-ce que c'est lié aux commentaires clients qu'ils peuvent avoir? Est-ce que c'est par rapport à une atteinte de chiffre d'affaires? Comment est-ce que tu drives tout ça?
Alors, on est plus sur de l'atteinte de chiffre d'affaires, en fait. On est vraiment sur de la performance, sur de la vente, sur de l'upsell, du cross-sell, ce type de choses, voilà.
D'accord.
Pour le moment, on est là-dessus. C'est un système qu'on éprouve, hein, parce qu'on l'a mis en place là. Et comme tout système, quand il est mis en place pour la première fois, et comme c'est aussi notre mode de fonctionnement, on va l'évaluer en fin de période, et s'il faut l'ajuster, on le réajustera.
Oui, je vois. Et alors, dans cette même logique, et parce qu'on est sur un podcast, tu le sais, d'excellence de service, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce que l'excellence de service? Comment est-ce que vous la transmettez chez Maison Parisienne? Comment est-ce que vous l'incarnez, cette excellence de service? Et comment est-ce que ton département des ressources humaines peut avoir de l'influence dans tout ça?
L'excellence, déjà, elle va partir... déjà, c'est quoi notre objectif? C'est quoi l'excellence? L'excellence, en fonction des entreprises, ne va pas être la même. Les attentes ne vont pas être les mêmes. Évidemment que quand vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, l'excellence, ça va aller sur la qualité du service, l'attention qui est portée au client, l'authenticité aussi de l'intention, c'est hyper important, et sur la qualité de l'interaction. Et finalement, je pense qu'on atteint l'excellence quand on a un retour client qui nous dit « merci, j'ai passé un séjour extraordinaire, J'ai adoré les moments que j'ai vécu. Et alors là, le Graal, c'est quand vous avez merci un tel de m'avoir accompagné, de m'avoir servi, d'avoir répondu à une attente particulière. Là, j'ai envie de dire qu'on a atteint l'excellence. C'est un peu notre objectif. C'est toujours voilà que au-delà de la satisfaction client, c'est que notre client ait ressenti une émotion en venant chez nous. Oui, par le lieu, parce qu'on a de beaux lieux, c'est vrai, mais de beaux hôtels, il y en a un peu partout, j'ai envie de dire, dans le monde.
Bien sûr.
Mais la différence, ça va être qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que vous avez vécu. Et à partir du moment où le client a une émotion ou a eu à un moment donné un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de nos équipes ou d'un des membres de l'équipe, parce qu'il a réussi à faire quelque chose, à rendre service ou à tout simplement faire son travail comme il doit le faire, mais que ça a marqué le client, à partir de là, je pense qu'on a atteint l'excellence.
Vanessa, tu viens d'utiliser deux fois un mot clé sur lequel j'aimerais beaucoup appuyer, c'est émotion.
Ouais.
Justement, si je te dis émotion, qu'est-ce que toi cela t'évoque en lien avec tout ce qu'on vient de dire?
Bah moi, j'ai envie de dire que ça m'évoque spontanément deux mots. Je dirais la passion, la passion de ce qu'on fait au quotidien. C'est important, voilà, d'aimer ce qu'on fait et de le partager. Et puis le second, ça va être le plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est hyper important. Plus vous prenez du plaisir, plus vous faites les choses avec sourire, bah, plus c'est facile et en même temps, les gens le voient et ça se ressent.
Bien sûr, oui, ça transpire énormément, mais je trouve ça très intéressant la façon dont tu le racontes, toi, à la fois du côté ressources humaines et en même temps, on sent que tu es très proche des équipes et de ce qu'elles peuvent vivre au quotidien et finalement de l'expérience client. Et c'est complètement en adéquation avec ce que tu racontais depuis le début où... Il y a ce mouvement, cette réflexion familiale et que qui emmène tout le monde dans le bateau. Et on a vraiment cette impression que tout le monde rame à la même vitesse avec chacun son différent rôle, mais qu'il y a cette vision dont tu participes à la transmission. Et c'est extrêmement important, je pense, dans un groupe. Et alors justement, on a trop peu parlé de tes expériences passées. Je rappelle que juste avant, tu t'es quand même dans un groupe énorme comme le PSG, le Paris Saint-Germain.
Ouais.
Quelle différence? Est-ce qu'il y a des choses, en tout cas d'un point de vue ressources humaines, qu'on trouve chez Maison Parraine, qu'on ne trouve pas chez PSG, et à l'inverse, dans le style de management peut-être, dans la vision aussi, dans la façon de travailler?
Alors, oui, évidemment, j'ai envie de dire.
Ouais.
Dans les deux structures... on va dire que le dénominateur commun, ça va être la passion, l'expérience client et l'émotion.
Oui, complètement.
Quand on regarde un match de football, quand on regarde un match de handball, ça dégage une émotion et c'est ce qui fait que vous allez voir ce type d'événement. Nous, dans les hôtels, on a toujours la même chose, c'est l'émotion, c'est qu'est-ce que vous allez vivre, quels sont les moments que vous allez partager en famille ou avec des amis. Ça, on va dire qu'on trouve les mêmes choses à ce niveau-là. Après, en termes de structure, c'est différent parce que Paris Saint-Germain, voilà, l'actionnaire, c'est QSI, donc on est sur une autre dimension en termes de structure.
Oui.
Alors que chez Maison Parraine, on a une proximité directe avec les propriétaires. Donc, tout est beaucoup plus rapide, tout est plus fluide. Et puis, on est encore, à une taille, on va dire, raisonnable, encore chez Maison Parraine, on n'a pas fini de se développer. Et moi, je suis arrivée au Paris Saint-Germain un an après l'arrivée de QSI. Et pendant 5 ans, en fait, j'ai accompagné tout le développement du groupe sur les différents aspects. Donc, soit sur des créations de bureaux à l'étranger, la création d'une section judo, par exemple, et aussi la création de nouveaux services, tels que le service digital, et le fait d'augmenter les effectifs, de recruter de nouveaux talents, ce type de choses. Je retrouve un peu cette dynamique finalement chez Maison Parraine, c'est-à-dire une entreprise en pleine croissance,
oui.
Qui a des ambitions de développement, des ambitions de marque, des ambitions de marché, et ça je retrouve aussi ça, donc c'est extrêmement stimulant, c'est super plaisant, et au quotidien c'est vrai que c'est assez excitant quand on est dans mon métier de travailler dans ce type de contexte.
Oui, de participer à ça. Et alors quels objectifs de développement en plus de de cet hôtel parisien? Est-ce que Maison Parisienne a l'intention de devenir un leader du marché français? Est-ce qu'ils veulent aller à la conquête de l'Europe ou ailleurs? Comment est-ce qu'ils voient les choses au niveau de Guiberto et de la famille Parisienne?
Ouais, alors ça, on n'en parle pas trop.
D'accord.
Pour être honnête. C'est vrai que on a des ambitions de développement, ça c'est indéniable. Dans quelle proportion et à quelle vitesse, on peut pas encore trop en parler, puisque évidemment vous imaginez que tu t'imagines qu'il y a des enjeux aussi stratégiques.
Oui.
J'ai plutôt envie de dire que dans un premier temps, notre ambition d'ici un an, c'est vraiment d'ouvrir notre hôtel dans le Marais.
Mmh.
De l'ouvrir bien avec les équipes qui nous correspondent. Parce que j'allais dire, il n'y a pas de bon et pas de mauvais profil. Il y a le profil qui vous correspond en sein de votre structure, en sein de vos valeurs.
Oui.
Voilà. Et nous, ouais, là, ça va plutôt être ça notre priorité dans un premier temps. Et puis des évolutions, une fois qu'on aura ouvert le Marais, parce que pour nous, c'est un gros enjeu.
Oui.
On parlera du reste.
Et en fonction des résultats aussi, j'imagine.
Ouais. On est confiants.
Quand on va sur le site web de Maison Parisienne, il y a une chose qui m'a marqué. On parle d'une collection d'hôtels responsables. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus?
Oui. Alors en fait, ça c'est un sujet qui tient vraiment à cœur à nos propriétaires.
Mmh.
On le voit déjà sur les spas qu'on a au sein de nos hôtels, donc, notamment avec Tata Harper, ce sont des produits 100% naturels. Notre driver, c'est aussi d'avoir une approche toujours éco-responsable. L'hôtel qu'on est en train de construire dans le Marais répond à un label écologique responsable. Okay. Tous les produits qu'on utilise le seront aussi. Par exemple, sur nos hôtels à Crillon et à Pinet, on a réduit de 80% l'utilisation de produits d'entretien en utilisant un système qui se fait par vapeur et qui évite en fait d'utiliser ce type de produit. Donc on essaie vraiment au maximum d'éviter les produits chimiques. Donc c'est quand même pas neutre, hein, moins 80%.
Ouais.
Et au quotidien, oui. Après, je pense qu'on a encore une chose à faire. On est en train de réfléchir à utiliser des contenants avec de plus grosses capacités pour éviter d'être sur des tout petits contenants et qui produisent du déchet aussi et qui polluent. Donc voilà, on est vraiment sur ces actions.
Mmh.
Et puis d'autres petites choses qu'on verra dans le Marais, mais dont je ne peux pas parler.
D'accord, que tu ne peux pas encore trop teaser. Et non. J'ai vu que vous aviez un partenariat avec Unisoap aussi, c'est ça?
Oui, exactement, ouais. Ouais.
J'avais fait un article sur eux l'année dernière, c'est intéressant ce qu'ils font sur le recyclage des savons. Je pense que c'est essentiel de se positionner sur le développement durable, même en pré-construction, comme là vous avez l'air de le faire sur le Marais, mais d'avoir déjà cette logique développement durable et RSE bien en amont du projet, ça permet de, j'imagine, de prendre certaines décisions et certains virages.
Ouais, c'est pas toujours simple, faut l'avouer.
Bien sûr.
Mais ça répond vraiment à de vraies convictions, en tout cas.
Bah, à partir du moment où ta direction, elle est déjà convaincue par ça, ça permet d'aller plus vite. La difficulté, c'est que ce n'est pas toujours le cas et que parfois, on rame un peu dans des directions différentes à cause de ça.
Et puis, au-delà d'être convaincu, ils sont moteurs. Hein. C'est un vrai enjeu et ça répond vraiment à des valeurs personnelles. Donc ça, c'est bien.
Et alors, tout à fait différemment, maintenant, si tu devais te positionner en tant que cliente, quel est, toi, Vanessa, ton meilleur souvenir d'expérience client? Pas forcément dans un hôtel, d'ailleurs.
Non. En fait, je vais pas parler d'une expérience client, parce que ce serait peut-être injuste pour toutes les autres bonnes expériences que j'ai eues. Mais en tant que client, je pense que le dénominateur commun de chacune des expériences était l'individualisation de la relation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le fait, voilà, d'avoir une proximité et d'avoir la volonté finalement d'avoir une relation un peu comme si on était unis, quoi. C'est-à-dire que c'est pas bonjour madame, c'est en fonction du lieu. Bonjour Vanessa, ou bonjour Madame Silancelic, voilà au choix. Mais ça, d'avoir cette proximité qui se crée, où on a l'impression de se connaître depuis très longtemps, alors qu'en fait, on se connaît que depuis 5 minutes. Et ça, je trouve, il n'y a rien de plus confortable.
Avec toujours authenticité et sincérité dans le regard et dans l'attitude de la personne qui transmet ça.
Ça se voit tout de suite, parce que c'est pas le cas.
Ouais. Ouais.
Et c'est pour ça que dans le recrutement, c'est hyper important, parce que soit vous l'avez, ça, soit vous l'avez pas.
C'est ce que j'allais dire. Et là, on revient sur les fameuses soft skills. Ouais. C'est que tu peux leur expliquer, en effet, toute la technicité du métier, mais tu pourras jamais leur apprendre comment, dans le regard, avoir l'authenticité de ce qu'ils font et la sincérité dans le sourire.
Ben non, ça s'apprend pas, ça. C'est en soi. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous.
Absolument, c'est toujours plaisant à entendre, et je suis content qu'aussi d'un positionnement RH, ce soit quelque chose qui soit recherché, parce que c'est valorisant pour les personnes qui ont ça aussi en elles. Je trouve que c'est des vraies qualités qui sont quand même assez uniques. Finalement, tout le monde ne les a pas et tout le monde ne peut pas les obtenir ou les développer. Donc, je trouve ça vraiment plaisant de se dire que c'est ce que vous recherchez et c'est ce que vous voulez exploiter derrière, et que c'est aussi ça qui finalement fait la spécificité d'une maison familiale comme Maison Pariente.
Tout à fait. Je vais pas dire le contraire.
et alors, pour continuer de parler de toi, et on va faire un voyage arrière cette fois-ci, si tu pouvais revenir dans le passé, qu'est-ce que tu ferais différemment?
J'ai pas vraiment pour habitude de regarder en arrière et de me dire qu'est-ce que je ferais différemment. Je suis plutôt pour habitude de me dire comment j'ai fait les choses et comment je peux les utiliser pour faire mieux demain.
Oui, c'est une bonne manière très positive de voir les choses.
Voilà, de toute façon, ce qui est fait, on peut pas le gommer. C'est comme quand quelqu'un de mon équipe vient me voir en me disant c'est la catastrophe, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il faut qu'on change, Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, de toute façon, ça ne va rien paniquer. C'est fait. Donc maintenant, on va se poser, on va regarder la tête froide, puis on va essayer de trouver des solutions.
Voilà. C'est très pragmatique, ça. J'aime beaucoup.
Non, mais c'est vrai. Stresser, s'énerver, ça ne va pas changer le problème. Donc je dis, à chaque fois, je leur dis, non, c'est bon, calmez-vous, on se pose. Déjà, la première chose, c'est qu'elles viennent me voir. Je n'ai que des femmes, malheureusement, dans mon équipe. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de recruter pour avoir un peu plus de mixité. On s'entend toutes très bien, donc c'est vraiment top. Déjà, le premier point, c'est que s'il y a un problème, mes équipes viennent me voir tout de suite et me le disent. Donc ça, déjà, je pense que c'est la clé. Et puis après, c'est de trouver des solutions. Donc c'est pour ça de dire, qu'est-ce que je ferais différemment si je devais revenir en arrière? Je pense que chaque chose dans la vie se fait avec les éléments qu'on a en notre possession, notre maturité, notre expérience, notre passé. Et puis c'est ce qui fait que, au fil du temps, on arrive à peut-être à gérer les choses de manière différente dans le futur, ou de manière, je sais pas, avec un peu plus de recul, plus de maturité.
Voilà. Ça me fait rebondir sur une question que j'ai pas pensé à te poser. Tu parles de défis avec lesquels tu travailles. Comment est-ce que ça se passe? Parce que toi, tu es donc DRH sur tout le groupe. Tu les vois physiquement? Vous êtes en visio? Est-ce que tu as une RH dans chaque hôtel? Comment est-ce que tu gères la partie pure ressources humaines?
Ouais. Alors moi, j'ai une RH effectivement dans chaque hôtel. On a des points réguliers et après, comme elles sont à distance, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Le visio, on le fait pas parce que c'est un peu lourd et que, t'imagines bien que les RH dans les hôtels, ils sont toujours un petit peu partout, à gauche, à droite, sur le terrain. Après, moi, je vais en pré-saison et en fin de saison, toujours dans les hôtels, pour faire un point avec elles, regarder ce qui s'est passé, ce qui va, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Et après, je pense qu'en fait, c'est très instinctif. C'est-à-dire que quand il y a besoin, à un moment donné, on échange, on se pose 5 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, en fonction des besoins. Et puis on apporte le support qu'il faut. S'il y a des questionnements, on essaie de répondre aux questions du moment. Et on essaie, en fait, c'est vrai que dans les saisons, c'est quand même très, très condensé.
Oui.
Ça va vite, ça va très, très vite. C'est-à-dire que je pense qu'une saison, ça équivaut peut-être à 3 ans de vie dans un hôtel normal.
Je suis d'accord.
Et donc, la notion du temps est assez relative et en fait, elle est très, très rapide.
Oui, complètement. Beaucoup plus théorique cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais nous recommander? Un livre qui, toi, t'inspire? Il n'est pas obligé de parler de ressources humaines.
Il ne parlera pas du tout de ressources humaines, en fait. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui est L'équipe des jours de Boris Vian.
D'accord.
Voilà, j'ai d'ailleurs une édition limitée du manuscrit original de Vorezian, voilà. J'aime beaucoup ce livre parce que j'aime bien le côté un peu fou de l'écriture,
oui.
L'imagination débordante.
Ah, je pense qu'on peut dire, oui, que c'est plutôt débordant.
Et ben moi j'aime bien ça, de cette ouverture, cette capacité à voilà rentrer dans l'imaginaire tel qu'il l'a. Ça me surprend, moi je n'ai pas cette capacité,
oui.
Je n'ai pas cette compétence. Je dis pas que je suis pas créative, mais en tout cas pas à ce niveau-là, ça c'est sûr.
Mmh.
Et puis évidemment cette belle histoire en fond, quoi.
Mmh. Je me demande si on pourrait transposer ce qu'il y a des choses qu'il y a dans ce livre à la direction des ressources humaines d'un groupe hôtelier au hasard comme ça.
Ah, il y a beaucoup d'humains finalement dans ce livre, donc ouais. Peut-être. Hein,
mmh.
Peut-être. Je pense qu'on peut faire des analogies sur plein de choses. En fait.
Il y a des pistes à explorer,
ouais,
tout à fait.
Explorer.
Est-ce que tu as également une citation favorite, un mantra que tu te répètes?
Est-ce que j'en ai une? Oui, j'en ai une, mais qui revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait de ne voilà, de pas regarder en arrière. En fait, c'est une citation de Paulo Coelho. Quand on peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Et finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal.
De quoi est-ce qu'il dit ça? C'est pas dans L'Alchimiste?
Je sais plus dans quel livre.
J'aime beaucoup Paulo Coelho, c'est un super auteur.
Ouais, c'est un bon auteur et qui est assez positif.
Mm.
Et c'est vrai que finalement, les expériences de nos vies nous construisent. Et se dire, ah, mais non, mais j'aurais jamais dû faire ça comme ça. Et pourquoi j'ai fait ci, j'ai fait ça? Bah, ça nous crée plus de stress et de soucis qu'autre chose. Il faut pas, voilà, il faut intégrer, il faut accepter la manière dont on a géré différentes situations par le passé, et puis, si besoin, analyser et se dire, mince, demain, si je suis de nouveau confrontée à telle situation, voilà ce que, peut-être j'intégrerai à tel autre, un autre élément d'analyse dans ma réflexion. Enfin, parfois, c'est plus spontané que ça, on n'est pas en train de se poser, en train de dire quelles sont les forces et les faiblesses de chaque situation.
Oui.
Mais de toute façon, tout notre parcours nous construit, on apprend jusqu'à la fin de notre vie, de toute façon. Et je trouve qu'effectivement, revenir en arrière, ça sert à rien, faut aller de l'avant, toujours. Einstein, je crois qu'il disait, la meilleure façon, la vie, c'est comme une bicyclette, avancer, vous ne tomberez pas, je crois, c'est quelque chose comme ça.
Oui, toujours une notion de mouvement et d'équilibre complètement.
Ouais,
et Paulo Coelho, ça me fait me souvenir qu'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, enfin, si on peut appeler ça développement personnel, mais ça s'applique aussi au management, c'était de lui, et c'est le manuel du guerrier de la lumière, je crois que ça s'appelle. Et c'est plein de citations, plein de phrases très très puissantes. Je recommande à ceux que ça intéresse, c'est vraiment sympathique à lire, on en sort avec plein de bonne énergie.
Ouais, c'est vrai que, enfin voilà, ce sont des auteurs qui ont quand même des visions assez positives de la vie. Donc.
Complètement, et pour faire le lien avec tout ce qu'on dit, quelqu'un qui arriverait à ce moment-là de l'épisode pourrait se dire, mais ça n'a rien à voir avec de l'excellence de service, avec du management, mais je trouve qu'au contraire, ça en a beaucoup parce que on s'inspire aussi de toutes ces théories, on s'inspire de cette créativité-là, et c'est des choses ensuite qu'on peut transposer dans nos métiers, dans la façon dont on le pratique. Donc c'est important d'aller chercher des ressources aussi loin de ce qu'on fait au quotidien.
Et puis, ce qui fait que vous allez vivre en tant que client une expérience différente, c'est parce qu'en face de vous, vous avez une équipe qui a été créative et qui sort un peu des sentiers battus. Hein.
Bien sûr.
C'est ce qu'on dit toujours. Hein. On a un peu ce motto-là au bureau, c'est essayer de think out of the box.
Oui.
Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que comment on peut faire les choses différemment. Le secteur de l'hôtellerie est par exemple assez codé, moi je l'ai découvert parce que je ne connaissais pas du tout.
Et, assez codé, le mot est faible.
Voilà. et moi qui ne viens pas du tout de ce secteur, c'est vrai que voilà, certaines choses parfois me surprennent. Parfois il faut les maintenir parce qu'elles sont bonnes et c'est très bien. Mais parfois, il faut aussi savoir les remettre en question et aborder les choses de manière un peu différente.
Donc, pensez hors de la boîte, pensez Boris Vian. Vanessa, pour sortir et aller dans cette voie-là, qui, à ton tour, est-ce que tu aimerais voir invité après toi sur Hospitality Insiders pour venir nous parler d'excellence de service?
Eh bien, je pense que quelqu'un comme Soazic Pebro, qui est la directrice des hospitalités des JO 2024.
Oui.
Peut être quelqu'un de très intéressant. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais au Paris Saint-Germain.
D'accord.
Qui était responsable du sponsoring, directrice du sponsoring, qui est ensuite partie à la Fédération de tennis pour ensuite rebondir au JO 2024. Et elle a un bon parcours, je trouve, que par rapport à nos sujets qui sont l'excellence et de la relation client, l'hospitalité, et compte tenu des gros enjeux de JO qui arrivent, je pense que c'est quand même très intéressant. Hein.
Bah, écoute, si tu souhaites lui partager l'épisode, je serais ravi de la recevoir ici et d'échanger avant les JO. Justement, je pense que ça doit être passionnant d'avoir son opinion sur cet événement qui va bientôt se passer. Et j'aime bien donner le mot de la fin. Si tu avais un message à faire passer aux insiders qui sont les auditeurs de ce podcast, quel serait-il ?
Bah, en fait, on va rester un petit peu dans le thème de nos discussions. C'est vivez les choses avec passion, prenez du plaisir et donnez-en, et la vie sera un peu plus douce.
Vanessa, merci beaucoup d'être venue faire un tour sur Hospitality Insiders. Comment est-ce qu'on peut te contacter pour ceux qui souhaiteraient rentrer en lien avec toi, postuler à Maison Pariente, au choix?
Bah, tout simplement sur LinkedIn, hein, ça va être un des canaux les plus simples. Et puis après, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Maison Pariente et Maison Pariente Talent. Donc, suivez-nous là, et puis ce sera très bien. Et puis rejoignez-nous, n'hésitez pas à postuler. Et si vous avez envie de vivre une belle aventure, bah, je pense que chez nous, vous pouvez la vivre.
Parfait, rendez-vous dans le Marais pour la prochaine ouverture Maison Pariente.
Oui. Et oui, on a hâte.
Merci beaucoup Vanessa, excellente journée à toi et à très vite.
Merci Maxime, c'est un plaisir.
Chers insiders, j'espère que cette découverte de Maison Pariente et des ressources humaines, à travers le regard de Vanessa, vous aura appris autant qu'à moi. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blo, et je vous dis à bientôt.